Chapitre 31. Dès que Jean-Noël eut refermé la porte de la petite chambre où il avait été conduit, il se jeta tout habillé sur le lit. Il avait beau s'efforcer de ne plus penser à Odile, elle demeurait présente devant ses yeux. Peut-être allait-elle le rejoindre dans un instant, accompagnée de toute sa famille, et le supplier de rentrer. S'il refusait, tout ce monde ferait irruption dans la chambre de Madame Ettlinger. Il redoutait tellement cette dernière éventualité qu'à tout moment, il croyait entendre le pas de plusieurs personnes. Il se leva. Que dirait Annie quand elle apprendrait qu'il avait abandonné sa femme, qu'il était venu habiter l'hôtel des grands hommes? Si elle lui ordonnait de rentrer chez lui, quelle attitude prendrait-il? Finalement, il se déshabilla et s'endormit. À l'aube, il s'éveilla en sursaut. Le ciel était d'un bleu sombre. Pendant quelques minutes, il arpenta la petite chambre dont la fenêtre donnait sur une cour silencieuse et étroite. Il se recoucha, ferma les yeux. Une minute après, il se dressait sur son séant. Cette fois, il était midi. Il regarda sa montre. Les aiguilles marquaient 6 heures. Bientôt enfin, il entendit des bruits dans l'hôtel. Au loin, sur un immeuble, il aperçut de son lit un rayon de soleil. Il attendit qu'il fût 8 heures. Il savait que sa belle-mère était matinale. Le front couvert de sueur, il quitta sa chambre dans laquelle il ne laissait de son passage qu'un lit défait et à peine tiède, descendit lentement l'escalier. Arrivé à l'étage où habitait Madame Ettlinger, il se mit à trembler. Par une lucarne, il aperçut un autre aspect de cette cour qu'il avait contemplée à l'aube. Après des hésitations, il s'engagea finalement dans le couloir sans fenêtre, encore éclairé à l'électricité, au fond duquel se trouvait la chambre d'Annie. Il frappa à la porte en s'imaginant, pour se donner du courage, qu'il venait de la rue de Babylone. « Qui est là ?» demanda Madame Ettlinger. « Moi. Entre, entre !» À peine eut-il ouvert la porte qu'il fut ébloui. La chambre d'Annie ne semblait pas dans l'hôtel, tellement elle était ensoleillée. La fenêtre était grande ouverte, un bruit joyeux montait de la place. Il y avait des fleurs partout. Annie était en train de prendre son petit déjeuner et le plateau devant elle faisait songer au voyage. « Comme tu viens tôt, » dit Madame Ettlinger. « Je ne croyais pas te voir avant ce soir. Tu n'as peut-être pas pris ton petit déjeuner. Veux-tu que je sonne à la femme de chambre ?»« Ce n'est pas la peine, je te remercie. » Il n'avait qu'une pensée, dire à Annie ce qui s'était passé entre Odile et lui, le dire le plus vite possible, car il craignait que sa femme n'arrivât d'un moment à l'autre. Quand Madame Ettlinger apprit que son beau-fils avait passé la nuit à l'hôtel des grands hommes, qu'il ne voulait plus retourner rue de Babylone, elle ne manifesta aucun étonnement. Elle semblait trouver tout naturel qu'après l'avoir quitté la veille, il se fût aperçu qu'il ne pouvait plus vivre près de sa femme et qu'il fût venu habiter cet hôtel. Jean-Noël était stupéfait. Il avait tremblé à la seule pensée de cette entrevue et tout se passait comme si celle-ci avait lieu dans des conditions les plus normales qui fussent. Il s'était attendu à des reproches. Il avait cru qu'il lui faudrait donner des raisons à son désir d'être indépendant. Il voulait être libre, non pour embarrasser sa belle-mère de sa présence continuelle, mais pour devenir l'homme que son père avait tant voulu qu'il devint. Il s'était imaginé que la lutte qu'il aurait à soutenir serait difficile, qu'il en sortirait finalement vainqueur, à moins que l'affection sincère qu'il avait discernée la veille chez Annie n'eût été que celle d'un moment. « Tu m'approuves ? » demanda-t-il. « Tu me poses une question à laquelle il m'est bien difficile de répondre. Je ne peux t'approuver ni te désapprouver sans me mettre dans une situation délicate. Si tu as agi ainsi, c'est, je le suppose, que tu as cru bien faire. Mais ne me demande pas de prendre parti. Tu es seul juge de tes actes. » Jean-Noël ne reconnaissait plus sa belle-mère. N'avait-elle pas, la veille, critiqué son mariage? Ne l'avait-elle pas engagé à reprendre son indépendance? Comment pouvait-elle, aujourd'hui, se réfugier dans une pareille neutralité? Craignait-elle ce qu'elle appelait des désagréments? « J'ai pensé que nous pourrions à présent travailler côte à côte, » dit-il en se servant d'une expression qu'il avait entendue dans la bouche de sa belle-mère et qui l'avait frappée. « Nous verrons, » répondit Madame Ettlinger. « je ne te cacherai pas que je suis inquiète. Je ne voudrais pas que ta femme s'imagine que je suis pour quelque chose dans ta décision. » Annie n'avait pourtant rien d'une personne inquiète. Jamais elle n'avait été si calme. « Je vais finir de m'habiller, » dit-elle en passant dans son cabinet de toilette. Resté seul, Jean-Noël s'assit près de la fenêtre. Pendant plusieurs minutes, il s'efforça de ne penser à rien, de se laisser distraire par le mouvement de la place. Un malaise l'avait envahi. Il sentait que son sort était entre les mains d'Annie et il était incapable de deviner ce qu'elle déciderait. Était-elle heureuse qu'il fût revenu, ou bien cela lui était-il égal? C'était ce qu'il ne cessait de se demander en suivant des yeux les passants, lorsque la sonnerie du petit téléphone placé à la tête du lit retentit. Il se leva, se rassit. Sans aucun doute, c'était Odile. Elle venait le chercher. Elle était peut-être accompagnée de ses frères, de son père. Que dirait Annie? Elle se joindrait à eux, probablement, pour lui demander de retourner rue de Babylone. Que ferait-il? Devrait-il céder? Veux-tu répondre? Dit Madame Ettlinger en ouvrant la porte. Ce n'était pas Odile, mais M. Le Doiré. Il était dans le hall de l'hôtel. Il voulait parler à Madame Ettlinger. Au moment où Jean-Noël accrocha l'écouteur, il s'aperçut que sa belle-mère se tenait derrière lui, prête à sortir. « Tu lui as dit que tu allais me prévenir ?» dit-elle. « Oui. » Elle porta les mains à son front, puis elle s'assit sur son lit. Jean-Noël s'approcha d'elle, plein de prévenance. « Je n'aurais pas dû le dire. » « mais si, tu ne pouvais pas faire autrement. Quand donc, mon Dieu, le monde me laissera-t-il en paix ?» Ces paroles, Jean-Noël les avait entendues prononcer tant de fois à cause de lui qu'il éprouva une sorte de soulagement à ne pas les avoir provoquées. « Il vient t'ennuyer jusqu'ici, » dit-il, comme si lui-même ne se le fût jamais permis. « Il vient tout le temps. Hier encore, il était là. » Madame Ettlinger se leva, se dirigea vers la porte. Comme Jean-Noël ne bougeait pas, elle lui dit « Accompagne-moi ». Il la regarda avec surprise. Puis la joie illumina son visage. « Si je te dis de m'accompagner, c'est que tu ne me déranges pas. Au contraire, je tiens à ce que tu sois là. Quand il verra que je ne suis pas seule, il ne reviendra peut-être plus. » À la vue d'Annie, Charles Le Doiré s'avança vers elle, sans même s'apercevoir que Jean-Noël la suivait. Il était visiblement surexcité. En descendant le dernier étage, Jean-Noël l'avait aperçu, allant et venant à grandes enjambées dans le hall. « Annie, fit-il sur un ton dramatique, il faut que je vous parle. J'ai des choses très importantes à vous dire. Hier, vous n'avez pas voulu m'écouter, mais aujourd'hui, il le faut. » « Je ne peux pas davantage. J'ai justement une course urgente à faire pour mon beau-fils. » À ce moment, Jean-Noël s'avança. M. Le Doiré, qui n'avait encore prêté aucune attention au jeune homme, eut un mouvement de surprise. « Vous m'excuserez, monsieur, dit-il, comme s'il s'adressait à une personne qu'il n'avait jamais rencontrée, mais Madame Ettlinger est obligée de m'accorder un entretien. » « C'est impossible. Nous avons une course très urgente à faire, » répondit Jean-Noël. « Vous voyez, » dit Annie en lançant sur son beau-fils un regard complice qui l'emplit de bonheur en même temps qu'il le surprit. Jamais sa belle-mère, aussi loin qu'il remonta dans ses souvenirs, ne lui avait montré une telle confiance. « Nous avons une course très urgente à faire, » répéta-t-il, mais cette fois sur un ton qui n'admettait pas de réplique. « Cela m'est égal, » répondit Charles Le Doiré. Se tournant vers Madame Ettlinger, il ajouta « Annie, ne serait-ce qu'en souvenir de nos longues causeries, de tout le bien que vous m'avez fait, je vous supplie de m'entendre. J'ai vu votre frère hier, il m'a approuvé, il m'a réconforté. » « Vous avez été voir Henri ?» demanda sèchement Annie. « Oui, et il viendra ici. » « Allons dans ce petit salon. Cette fois, c'est moi qui vous demande de m'écouter. » Jean-Noël, par discrétion, ne voulut pas suivre sa belle-mère. Mais comme elle l'avait fait dans sa chambre, elle le pria de la suivre. Aussi, à peine fut-il entré dans le petit salon, crut-il habile de dire « Nous allons arriver en retard. » Annie ne lui répondit même pas. Elle était dans une colère qui n'avait rien de commun avec celle où Jean-Noël l'avait vue si souvent. Ce n'était plus la colère qu'un fils ou un parent peut faire naître, mais celle d'une femme qu'un homme qu'elle n'aime plus ou qu'elle n'a jamais aimé harcèle. Jean-Noël le sentait et il en éprouvait une sorte de gêne. Malgré la joie que lui donnait son utilité, il eût mieux aimé se retirer jusqu'à ce que cette scène fût terminée. Qu'un homme pût exiger d'Annie qu'elle l'écoutât, que celle-ci pût se faire menaçante, cela en sa présence lui semblait incompréhensible. « Je vous ai dit, continua Madame Ettlinger, que s'il était une chose à laquelle je tenais avant tout, c'était que vous ne mêliez pas ma famille à cette histoire. Je comprends de moins en moins votre caractère. C'est à croire que vous éprouvez un plaisir à vous ridiculiser. Votre frère a toujours été mon ami. Il a été avant que je vous connaisse. Je vais aller voir Henri ce matin même. Comment pouvez-vous me parler aussi durement, Annie ? Au revoir. » Madame Ettlinger fit signe à Jean-Noël de la suivre. Il obéit, non sans éprouver cet embarras que nous cause un témoignage d'amitié en une circonstance où il ne peut être sincère. Mais M. Le Doiré rattrapa Annie avant qu'elle eût atteint la porte. « Vous ne voulez pas m'entendre ? Je vous ai déjà dit que je ne voulais plus non seulement vous entendre, mais vous voir. » « Vous ne comprenez donc pas, ajouta Jean-Noël, que votre insistance est exagérée ?» Cette fois, Charles Le Doiré s'attaqua à celui-ci. « Vous prenez la défense de Madame Ettlinger. Je trouve cela très noble de votre part, très noble et assez incompréhensible. Laissez-moi vous dire que vous avez la mémoire courte. » Jean-Noël devint rouge. Il voulut parler, mais aucun son ne sortit de sa bouche. À ce moment, Madame Ettlinger revint sur ses pas. « Qu'est-ce que vous dites ? » demanda-t-elle à M. Le Doiré. « Je dis que je ne devrais pas m'étonner que vous soyez si cruel avec moi, car vous l'avez toujours été avec tout le monde. » Annie regarda M. Le Doiré fixement dans les yeux, puis elle se tourna vers son beau-fils. « Viens ! » dit-elle. C'était dans un vieil hôtel de la rue Saint-Georges que se trouvait l'étude de Maître Grimbert. Ce nom de Grimbert était familier à Jean-Noël, qu'il avait entendu prononcer souvent par Annie. Mais quand il le lut sur une plaque de cuivre, il fut surpris, car il avait toujours cru que c'était Rimbert et non Grimbert. Le seul fait d'avoir appris l'orthographe de ce nom lui parut la promesse d'autres connaissances et il se vit déjà intimement mêlé à la vie de sa belle-mère. Le porche franchi, Annie et lui se trouvèrent sous une grande voûte. Au fond, on apercevait une cour cailloutée, avec très peu de verdure, un arbre entouré d'un banc de pierre, une statue. L'aile droite semblait réservée à l'habitation de Maître Grimbert. Après avoir traversé un long hall sur lequel donnaient des portes vitrées, Madame Ettlinger et son beau-fils furent introduits dans un salon assez quelconque, puis dans un autre beaucoup plus luxueux. « Nous n'attendrons pas longtemps, » dit Annie. Jean-Noël remarqua qu'elle avait cette attitude gênée qu'ont ceux qui se sont toujours montrés à nous, décidant et agissant, lorsque les circonstances font que, comme nous, ils doivent attendre. Elle ne s'était pas assise. « Tu as vu le dispositif de la double porte ?» dit Jean-Noël, à qui cette visite en rappelait d'autres semblables, faites dans son enfance et qui se sentait redevenir un lycéen. Il s'agissait d'une tringle grâce à laquelle les deux portes s'ouvraient en même temps. Madame Ettlinger ne répondit pas. Depuis qu'elle se trouvait chez le notaire de sa famille, son beau-fils semblait un étranger à ses yeux. Soudain, un personnage que Jean-Noël prit au premier abord pour Maître Grimbert lui-même parut. « Maître Grimbert, dit le nouveau venu en s'inclinant, vous prie de bien vouloir passer dans son cabinet. » Un homme d'une quarantaine d'années s'avança à la rencontre de Madame Ettlinger. « Comment allez-vous, chère madame ?»« Votre père n'est pas là ?» demanda Annie. « Non, répondit le fils du notaire. Il a été appelé hier soir en province. Mais tranquillisez-vous, chère madame, je suis au courant de tout. »« Mon beau-fils, dit Annie en voyant le regard de Maître Grimbert se porter sur Jean-Noël. » Le notaire, après avoir salué discrètement le jeune homme, alla ouvrir une fenêtre. Jean-Noël aperçut alors, se détachant sur un mur tout proche, l'arbre qu'il avait remarqué en arrivant. « Je voulais vous demander, dit Annie, si votre père ou vous avez vu mon frère. Je tiens absolument à ce que tout soit réglé le plus tôt possible. » « Votre frère n'est pas venu nous voir, mais mon père lui a écrit. Nous attendons ou sa visite ou une réponse. De toute façon, vous n'avez rien à redouter. Nous possédons la liste exacte des valeurs vous appartenant. Si le partage n'est pas complètement terminé, c'est tout simplement parce que vous étiez absente. En tout cas, je peux vous affirmer que d'ici une quinzaine de jours, vous serez en possession de tout ce qui vous revient. » Annie regarda Jean-Noël en souriant et dit « Je tiens à pouvoir disposer de ce que je possède. Comme vous le voyez, j'ai charge d'âme. »